bonjour et merci de vous savoir très nombreux à l'écoute de Patara. C'est le tout dernier débat politique du mois de janvier 2023. Nous parlons de la montée de violences armées ces derniers jours en Centrafrique. En effet, les groupes armés multiplient les attaques contre les positions des FACA, leurs alliés, voire contre les symboles de l'État. C'est le cas du poste de douane de Beloko dans la Namambiré, où les groupes armés ont saccagé les locaux et ont tué des personnes. Cependant, le gouvernement avait affirmé il y a de cela 2 mois que les forces nationales avait le contrôle à 100% du territoire national. Alors, comment comprendre que les rebelles se font parler d'eux par des actes de violence contre des civils et des écussons de l'État, des voix de la société civile, de l'opposition et de certains proches du pouvoir ne cessent de critiquer l'action gouvernementale et surtout la passivité du ministère de la Défense dans la pacification du pays. Question, que se passe-t-il au sommet de l'État centrafricain dans la lutte contre les groupes armés? Comment justifier le regain de violence ces derniers jours? Est-ce que le chemin entrepris par le président Touadéra permettra aux Centrafricains de retrouver la paix à moins de 3 ans de la fin du dernier mandat du président de la République? Selon vous, quelle est la solution pour mettre fin à ces violences armées? Tout de suite, analyse et décryptage dans ce débat démocratique. Et pour en parler, le plateau Patara reçoit Cyriaque Gonda, président du Parti national pour un Centrafrique nouveau, ancien ministre des État et opposant au régime du président Touadéra. Monsieur, bonjour et mieux vaut tard que jamais. Mes meilleurs vœux de l'année 2023.
Meilleurs vœux à toi, Armando. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Ndeke Luka.
Maître Bruno Yacinthe Bigba, avocat au barreau de Centrafrique et membre du groupe de travail de la société civile GTSC. Monsieur, bonjour.
Bonjour, monsieur Armando. Bonjour à tous les auditeurs et je leur souhaite aussi mes meilleurs vœux. Je suis non seulement du groupe de travail de la société civile, je suis aussi du réseau des ONG de promotion et de défense des droits de l'homme.
Toujours de la société civile. Voilà. Et Mathurin Djimbelenakwe, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous et puis bonne année à tous les Centrafricains.
Conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale, coordinateur du mouvement Centrafrique Debout qui soutient le gouvernement et ancien député, Armando Nguindi, c'est moi. Encore, bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Avant d'ouvrir le bal avec vous, Monsieur Gonda, je tiens à expliquer à nos auditeurs et internautes que pour ce sujet du jour, nous avons joint les ministres de la Défense, du secrétariat général du gouvernement et le porte-parole du gouvernement afin d'y participer, mais ils ne se sont pas rendus disponibles pour cette thématique. Claude Ramon-Biro de la Défense, lui, estime que le sujet est délicat et ne souhaite pas qu'on en parle pour le moment. Et donc, nous sommes désolés de ne pas avoir autour de cette table un membre du gouvernement pour répondre aux préoccupations des Centrafricains au sujet de la montée de violences armées ces derniers jours dans le pays. Ceci étant, nous allons analyser, décrypter, voire proposer quelques pistes de solutions aux autorités par le truchement de notre panel d'aujourd'hui. Première question, Monsieur Gonda, quel constat faites-vous de la situation sécuritaire dans certaines régions du pays ces derniers jours?
Merci beaucoup Armando. Il n'y a pas une période particulière pour parler de la sécurité parce que nos populations en souffrent de manière journalière et de manière profonde dans leur chair. Donc la situation sécuritaire aujourd'hui dans notre pays, je crois que c'est un constat qui saute à l'œil. La situation sécuritaire est assez catastrophique, délétère. Il y a un regain de violence. Regain de violence partout où les groupes armés s'attaquent aux symboles de l'État, et particulièrement aux forces armées centrafricaines. Si c'est effectivement des Centrafricains qui se battent pour des causes justes, ils ne peuvent pas se mettre à tuer des FACA. S'entretuer ne résoudra pas le problème. Et ce regain de violence-là, c'est dû à quoi? C'est dû tout simplement au fait que maintenant, c'est la saison sèche. Vous savez que depuis 10 ans que je suis intéressé aux questions de la sécurité, avec le désarmement que j'ai géré sous le régime Bouzézé, toujours la saison sèche donne l'occasion aux groupes armés d'être mobiles, d'être violents. Et je pense que la réponse devait être prise depuis pendant la saison de pluie. L'armée, le régime devrait s'organiser et nous connaissons nos limites et on devrait accompagner tout ça. Je reviendrai dans les solutions. Parce que j'ai toujours, comme vous le savez, je suis de l'opposition constructive, je ne fais pas de l'opposition djihadiste. Donc partout où je passe sur les ondes, c'est pour proposer des solutions pour mon pays, de façon à ce que le peuple vive un peu en paix après toutes ces années, Armando. Et ça, c'est avec beaucoup de pincements au cœur que je vois le gain de violence partout. Les populations souffrent. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Beloko, vous voyez, ça démontre que nous pouvons être attaqués partout. On peut aller jusque dans les caisses de l'État, dans le trésor, aller prendre de l'argent et partir. Donc, s'il y a un mélange de grand banditisme avec une rébellion dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants parce que c'est truffé d'étrangers. Et ça, il faut aller droit au but. Et si c'est du grand banditisme, il faut répondre par les moyens appropriés. Il ne faut pas répondre par des moyens classiques, les moyens traditionnels.
Parole à vous, monsieur Matsurandjimele Nakwe. Même question, quel constat faites-vous de ce qui se passe actuellement à l'intérieur du pays?
Je vous remercie. Je crois que mon prédécesseur a dit l'essentiel. Le constat est que nous assistons à des attaques armées un peu partout. On parle de Beloko, dernière attaque. On parle de Besson. On parle de Kui sur les réseaux sociaux, etc. Mais je ne voudrais pas être trop pessimiste. Mais je sais que on ne peut pas, par un bâton magique, mettre fin à toutes ces violences-là qui ont sévi en Centrafrique pendant plus d'une dizaine d'années. Hein, souvenez-vous que c'est depuis 2012 que la RCA coupit sous ces attaques-là. Avant, c'était une rébellion qui avait un nom et cette rébellion a disparu. Aujourd'hui, je pense que des grands efforts ont été faits par le gouvernement pour reprendre, et ça c'est des efforts reconnus par la communauté internationale et même par les Centrafricains, pour reprendre la plus grande partie des villes qui ont été, des régions qui ont été occupées par les groupes armés. Aussi, je pense que il faut utiliser plutôt le mot que M. Gonda vient d'utiliser, le qualificatif-là du grand banditisme, parce que je ne crois pas que ce à quoi nous assistons aujourd'hui soit comparable à la rébellion Séléka ou à d'autres formes de rébellion que nous avons connues jusque-là. Maintenant, il faudrait chercher les véritables motivations de ces attaques, par exemple, celle de Beloko. Qu'est-ce que les gens cherchaient? Je crois savoir qu'ils ont incendié des camions-citernes. Et quel était l'objectif de cette attaque-là? Il faut chercher l'objectif des attaques afin de proposer des solutions appropriées. Tout à l'heure, nous viendrons à cela. Et moi je pense qu'il faudrait que nous soyons prudents. Je demande personnellement au gouvernement d'être efficace. Et je voudrais profiter de ce micro pour répondre un peu à votre appel de tout à l'heure. Moi, je pense que le micro ne devrait pas empêcher au gouvernement de venir expliquer réellement ce qui se passe. Parce que nous pouvons dire, mais nous le disons en tant que citoyens. Nous le disons en tant que porte-parole de plateformes politiques chargées de porter haut les actions du gouvernement. Mais Les véritables problèmes, les solutions, tout, les bonnes explications viendraient, à mon avis, du gouvernement. Et je crois que je vous encourage à tendre votre micro aux membres du gouvernement, parce que ce que nous disons ici, si c'est un membre du gouvernement qui le dit, aura plus de valeur.
C'est ce que nous avons tenté plusieurs fois d'expliquer à certains membres du gouvernement, malheureusement.
Mais on
va continuer, comme vous l'avez dit.
Je demande aux membres du gouvernement concernés de se rapprocher des journalistes, d'expliquer aux Centrafricains ce qui se passe exactement.
On y revient.
Ce qui se passe exactement.
Merci beaucoup. Merci pour votre éclaircissement, Maître Gbegba, sur ce qui se passe actuellement, la situation sécuritaire dans l'intérieur du pays.
Je vous remercie. La situation sécuritaire qui nous préoccupe aujourd'hui, on la déplore juste parce que le gouvernement n'a pas anticipé. Tout le monde sait depuis des années, c'est depuis 2013 qu'il y a des groupes armés, que nous vivons dans cette insécurité. Et pendant la période de transition, nous en avions connu depuis que le président Touadéra est au pouvoir, depuis 2016 jusqu'à ce jour. Il y a eu des tentatives de négociation avec certains groupes rebelles, ainsi de suite. Lorsque j'entends le président Gonda dire rebelle bandit, bon, moi, c'est lui qui va un peu expliquer ce qu'il dit cela, mais pour moi, un rebelle est un bandit. Et c'est depuis que, pour moi, rebelle, il n'y a pas de différence pour moi entre un rebelle et un bandit. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui se rebelle, c'est quoi? Il se rebelle contre les autorités établies. Et vous voyez aujourd'hui, tout ce que les rebelles font, ils détruisent les postes stratégiques. Imaginez-vous un poste comme Beloko. Lorsque je vois qu'on a attaqué Beloko, il n'y a pas eu de réaction. On a détruit, certainement, qu'il y a des sous là-bas. Aujourd'hui, sauf erreur au monsieur de ma part, le gouvernement n'a pas communiqué sur le dégât de Beloko. Et après, nous lisons seulement dans les trucs, puisque nous sommes tous sur les réseaux sociaux, il y a des trucs à Bessan, il y a des trucs à Ndélé, ainsi de suite. Mais le gouvernement ne communique pas, alors que c'est une obligation des membres du gouvernement de venir devant la population rendre compte. Mais à quel moment ils vont le faire? C'est pas, on ne leur demande pas de venir à une partie de plaisir, on leur demande de venir s'assumer. Et nous sommes des citoyens, ils doivent venir discuter avec nous pour expliquer. Mais lorsque je vois l'insécurité qui continue, il y a un manque d'anticipation parce que nous vivons dans ce système-là depuis des années.
Mais lorsque vous parlez de manque d'anticipation, déjà, il y a de cela 2 mois, le gouvernement a annoncé avoir pris le contrôle en 100% même du territoire centrafricain. C'est peut-être ça qui explique le relâchement à ce niveau.
Non, vous comprenez avec moi que cette autosatisfaction s'est effondrée avec les attaques à Beloko, à Bessan, à Ndélé et autres. Donc, ils étaient dans l'autosatisfaction. Et comme je le dis, il y a un manque d'anticipation. Parce que quand il y a une guerre, la première arme pour une guerre, ce sont les renseignements. Quand vous voyez qu'on a attaqué Beloko, on a détruit le poste de Beloko, personne n'a réagi.
Au même moment, on a attaqué Gallo, on a attaqué Bessan.
Voilà. Mais lorsque je voyais les images de Beloko, il y a un monsieur en armes qui se promenait gaillardement sans se gêner. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait même pas de force de défense et de sécurité là-bas. Donc, ils ont programmé aller faire quelque chose. Ils ont programmé aller incendier les fûts, les camions des particuliers, détruire les biens de l'État. Et le poste de Beloko a été réhabilité tout récemment, il y a 1 an. À combien? Ça nous a coûté combien? Et vous voyez, Beloko nous rapporte combien à la caisse de l'État. Donc, c'est un poste stratégique qui devait être gardé. Mais je dis qu'il y a un manque d'anticipation parce qu'il n'y a pas de renseignements. C'est comme si notre armée fonctionne comment, je ne sais pas. Parce que lorsque vous voulez faire la guerre, lorsque vous savez qu'il y a des rebelles, qu'est-ce que vous devez faire? Vous ne devez pas chaque jour attendre que les rebelles vous attaquent pour répondre. Nous sommes un gouvernement, nous sommes attaqués, mais c'est au gouvernement de s'organiser pour aussi les éteindre. Mais on ne fait rien, on attend, et puis quand on vient attaquer, bon, ah nous on a repoussé les rebelles. Mais attendez, le gouvernement ne fait pas ça. C'est pour cette raison qu'il dit il y a un problème d'anticipation, et vous avez constaté, je me répète, cette autosatisfaction s'est effondrée.
On y revient pour comprendre et puis revenir sur votre préoccupation quant à ce qui concerne le service de renseignement. Mais d'abord, on va comprendre qu'est-ce qui justifie selon vous, M. Gonda, le regain ou bien la montée de violences armées dans certaines régions du pays ces derniers temps. Vous l'avez déjà expliqué, mais les raisons de ce qui pousse les groupes armés. Nous avons compris qu'ils ont pris du temps, ils ont observé, mais ces 2 derniers mois, ils ont repris les hostilités dans certaines localités et surtout les zones stratégiques comme le Namambiré, Wampende et bien d'autres.
Non, moi je pense que, Armando, d'abord je voudrais ouvrir une parenthèse en disant ceci. Vous savez, maintenant dans notre monde, dans des situations d'hostilité, quand ça devient intense, abyssal, incontrôlable, c'est la communication qui commence à prendre le terrain. Vous voyez aujourd'hui en Ukraine, non ? La guerre de communication. C'est pourquoi j'insiste sur ce que le représentant du pouvoir dit, l'honorable Dimbélé. Il faut communiquer. En 2006, quand l'UFDR a pris Birao pour prendre l'aéroport de Birao, monter vers Tiringoulou pour atteindre Bambari et venir à Bangui, nous avons mis sur pied, sur le contrôle de nos partenaires européens, une guerre de communication avec leur représentant, Abakar Sabone. Et avec cette guerre de communication, nous avons pu convaincre le Conseil de sécurité français sous le président Chirac pour décoller un avion de l'opération Épervier qui a mis fin à la prise de l'aéroport de Tiringoulou avec le frère Yao Abatar et Tidjani Abator. Donc, aujourd'hui, refuser de communiquer, parce que le premier complice d'une armée, c'est qui? C'est la population. Le premier complice,
d'une armée, c'est la population.
Il faut expliquer qu'est-ce que vous faites à la population.
C'est la population qui t'informe, qui vous informe. Il n'y a pas de meilleur renseignement que la population. Même aux États-Unis, c'est ça. Aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure qu'il y a le grand banditisme, est-ce que vous voyez ce qui s'est passé à Beloko? Quelqu'un m'a expliqué, et moi j'ai vu les photos. Les gens étaient venus avec un objectif, prendre de l'argent, brûler les... Parce qu'il n'y avait pas une base des FACA véritable. Donc eux, ils ont ciblé l'aspect économique de la destruction. Alors ce qui... Pourquoi il y a eu ce regain? Je vous ai dit premièrement, la saison sèche, c'est le moment de prédilection pour les violences armées et le moment de banditisme pour ceux qui sont... Parce qu'il y a une bonne partie, M. Bigbia de la société civile, une bonne partie de notre rébellion, 70%, c'est des bandits. C'est du banditisme.
Mais lorsqu'on annonce déjà...
C'est-à-dire quand on prend un Sidiki, quand on prend celui qui l'a remplacé, quand on prend des étrangers, littéralement des étrangers, qui acceptent, qui se reconnaissent étrangers, qui ne parlent pas le sango, et qui viennent dans ton pays, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent aider pour le bien-être de la population, c'est du banditisme. Maintenant, vous avez une petite partie qui sont des rebelles. Vous avez, par exemple, ceux qui ont suivi l'ancien président a une revendication politique qui est organisée en violence, déplorable, mais c'est une revendication. Et à partir de ce moment-là, l'État doit prendre des précautions. Aujourd'hui, nous avons eu le dialogue républicain. Nous avons discuté toutes les questions politiques. Et vous savez que les rebelles estimaient aussi que le président Ouattara devait entamer, peut-être maintenant qu'il a fini avec les politiques, il faut se dire vraiment, c'est ça la vérité, hein, il faut se dire que bon, le président Ouattara devait commencer maintenant à discuter avec la rébellion dans le cadre de la feuille de route de Luanda.
Qui, ça n'a pas été présent, fait. Ça pas été présent, fait. Cette feuille de route n'a ça, pas été dévoilée, ni connue hein, par la majorité de la population.
Ça n'a pas été fait. Et par principe, vous savez, la rébellion, quand il reste longtemps en brousse, eux aussi, pour se faire entendre, ils attaquent, ils commettent des dégâts, ils commettent ceci, mais parfois sur la population. Et c'est ça là qui devient un problème aujourd'hui. Un, ils sont restés en brousse, c'est des rebelles. Vous savez, pour transformer les rebelles, moi j'ai travaillé avec l'APRD, l'UFDR, FDPC, MLCJ, UFR et CPJP, Bigbia était là. Il faut entamer les discussions et utiliser le bâton. Je l'ai toujours dit sur
d'autres... Carotte
et bâton, c'est voilà. Ça.
On va écouter.
Et utiliser le bâton. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Excusez-moi, une seule seconde. Aujourd'hui, nous reconnaissons que notre armée a des difficultés. Le pays n'a pas d'argent pour acheter des MiG. Hier, je voyais les neuf armées les plus puissantes de l'Afrique. Neuf. Même le Sénégal n'est pas parmi les neuf. Mais vous voyez les MiG. Ma chère, commencez à voir ça. Le premier, le Nigeria. Mais ce qu'ils ont là, mon frère... Alors, donc nous n'avons pas d'argent pour faire. Maintenant, quand tu n'as pas d'argent pour équiper ton armée, quand le territoire est aussi vaste, il faut utiliser les stratégies et la tactique et discuter avec les chefs. Monsieur, vous n'avez pas le droit. Essayez de rapatrier ceux qui emmerdent sur le territoire et utiliser le bâton pour ceux qui résistent. Voilà moi.
Mais lorsque vous parlez, lorsque vous avez évoqué la question des étrangers qui sont parmi les groupes armés, mais qui ont déjà eu l'occasion de servir au sein du gouvernement ou de servir à côté de ceux qui géraient le gouvernement à l'époque, ne pensez-vous pas que le fait qu'ils ont eu à côtoyer ces responsables ou ces autorités, ils ont maîtrisé déjà le mécanisme du fonctionnement de la République centrafricaine, c'est déjà aussi un autre danger.
Oui, c'est un danger, mais il faut se faire violence. Un État, c'est un État. Vous voyez, aux États-Unis, les gens sont même allés jusqu'à vouloir amener Donald Trump au tribunal, parce que le symbole de l'État a été touché. Donc, à un moment, il faut qu'un État se fasse violence, il faut que le gouvernement devienne efficace, comme ça a été dit tout à l'heure, responsable, et accepte de se faire violence. Faire passer nos accointances avec les rebelles, là, qui sont des intérêts individuels, là, de côté pour voir l'intérêt supérieur.
Monsieur Djimbélé, sur cette question.
Avant de répondre à la question relative aux raisons de ce regain de violence, il faut aller un peu plus loin. Il faut chercher à connaître l'origine de ces choses-là. Et je suis d'accord avec M. Gonda que la plupart des assaillants sont plutôt des étrangers. Ce ne sont pas des Centrafricains. Alors, c'est nous, Centrafricains, qui les avons importés. C'est nous.
De 1900, je me plais toujours 36. À évoquer des périodes passées. De 1966, tous les coups d'État que nous avons connus dans le pays, coups d'État et tentatives de coups d'État, il n'y a jamais eu importation de mercenaires étrangers. Mais dès qu'on a commencé à amener les Banyamulenge, les Séléka, les libérateurs, etc. Mais ce sont les conséquences. Et vous l'avez si bien dit, ils sont venus. Ils ont vu que c'est un pays où coule le lait et le miel. Alors, ils n'ont pas envie de quitter ce pays-là. Et c'est des gens qui n'ont pas envie que la rébellion cesse, que cette période-là cesse. M. Gonda a géré la rébellion. Il a occupé un poste ministériel qui lui a permis de connaître ces rebelles-là. C'est déjà lorsque on trouve une solution ici, ils créent un autre problème là, juste pour leur survie. Et ça, c'est très important. C'est très important. C'est nous qui les avons amenés. C'est nous qui leur avons donné le plaisir de détruire notre pays. C'est quoi cette politique? C'est quoi cette opposition qui ne s'intéresse qu'à la destruction du pays? En France...
Non, c'est pas l'opposition. Ça, c'est la rébellion, mon cher.
Non, non, il y a l'opposition. Vous avez dit ici que vous avez dit ici que vous êtes une opposition républicaine et puis constructive. Mais ça veut dire qu'il existe une opposition qui n'est ni républicaine ni constructive. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, lorsque y a eu ces attaques-là, dites-moi, est-ce que des gens de l'opposition, en dehors de vous peut-être, est-ce que l'opposition centrafricaine a critiqué, a levé le seul petit doigt pour dire il faut qu'on arrête?
Mais le gouvernement lui-même n'a pas communiqué sur ça.
Est-ce que l'opposition centrafricaine a condamné toutes ces attaques des derniers jours?
Moi, j'ai condamné. Hein.
Non. Oui. Mais nous avons vu, par exemple, en France, lorsque Bataclan a été attaqué, il n'y avait plus ni opposition, ni majorité, ni centriste. C'est tous les Français qui étaient réunis autour de leur gouvernement pour dire non à la violence, pour dire non au terrorisme.
Mais puisque vous le savez très bien que, en répondant peut-être, en mettant, si vous vous mettez dans la peau de l'opposition, hein, vous savez que l'accord de Khartoum a été discuté sans l'opposition, et ceux qui sont dans la brousse, ce sont ceux qui ont été des signataires de l'accord de Khartoum, peut-être.
Je suis
tout ça, peut-être.
Je suis désolé.
Qui explique ce mutisme.
Je suis désolé, à Khartoum, nous avons été là, sans prendre part, effectivement, au débat. Mais M. Ziguele, qui est aujourd'hui de l'opposition, M. Ziguele était à Khartoum. Je suis désolé, la plupart des groupes armés, ils étaient à Khartoum. M. Gbegba, qui est là devant moi, était à Khartoum. Donc on a amené tout
vous
le monde.
Vous avez choisi ceux que vous pouvez amener.
Non, il n'y avait pas de choix. Moi, par exemple, je n'ai pas été choisi. Ce sont les députés, parce qu'il fallait les représentants de l'Assemblée nationale.
Vous avez été, mais vous n'avez pas pris part à la discussion.
Mais c'était prévu ainsi.
Mais tu me vois, moi, Gonda, chef de l'opposition, aller à Khartoum, ne pas prendre part à quelque chose, et qu'est-ce que je viens de dire à mes enfants?
C'était prévu ainsi, mais il y avait un mécanisme qui a été mis en place.
Voilà, ça, c'est sûr.
Ça nous regarde pas.
C'est une parenthèse.
Maintenant, les raisons. Les raisons, à mon avis, la première raison, c'est chercher à asphyxier l'économie centrafricaine. Vous savez qu'à un certain moment, certains compatriotes ont été voir des institutions financières ou politiques internationales pour leur demander de ne plus aider la République centrafricaine. Conséquence, la République africaine ne bénéficie plus d'aide budgétaire.
Mais est-ce que la demande d'une opposition ou bien la demande de quelques-uns sont plus écoutées, hein, enfin, est plus écoutée, j'allais dire, cette demande-là est plus écoutée à l'extérieur que la demande du gouvernement qui gère le pays?
Je ne pense pas que la question que vous posez soit celle-là. Disons simplement, moi je pose la question suivante. Est-ce qu'un centrafricain qui aime son pays, qui pense qu'un jour il va venir diriger ce pays-là, qui aspire à être président de ce pays-là un jour, peut formuler une telle demande vis-à-vis de la communauté internationale.
Effectivement, cela a été déjà formulé, mais déjà, si certains membres du gouvernement confirment que le fait de demander peut-être l'extérieur écoute beaucoup plus l'opposition ou ceux qui sont de l'opposition plus que le gouvernement.
Armand, je peux dire un mot sur ça?
Oui.
Je dis que c'est inadmissible qu'un citoyen centrafricain, fût-il de l'opposition, de la société civile, ou quoi que ce soit, puisse émettre à une institution internationale ce genre de vœux. C'est antipatriotique. C'est antipatriotique.
Mais est-ce que cela est écouté?
Non, je vais vous répondre. Moi, j'ai fait l'international. J'ai été aux Nations Unies. Je vais vous raconter une petite anecdote. En 1990, je pense. Non, 2003.
2002.
Voilà. Dole Gele était premier ministre.
Ouais, 2002.
Le jeune Bida et les autres, etc., ont débarqué aux Nations Unies. Moi, j'étais dans la salle de conseil de sécurité, fonctionnaire des Nations Unies. Et ils ont pris la parole sans autorisation pour demander à ce qu'on ne donne rien au président Patassé, que c'est un criminel, qu'il est en train de tuer à flot et à sang nos frères Yakoma, etc., etc. Nous sommes sortis pour dire non, ça ne se passe pas. Quelles que soient les conditions, vous devez vous battre contre la dictature, mais ne demandez pas. Parce que ceux qui vont souffrir quand on ne donne pas, c'est la population. Aujourd'hui, les ONG qui font Bekou, font Bekou, etc., UNOPS, c'est pour la population. Alors, maintenant, votre question. Est-ce qu'ils sont plus écoutés? Oui, la communauté internationale écoute aussi bien l'opposition, que la société civile, que le régime. Parce que pour la communauté internationale, on veut une cohésion qui leur permet de mettre leur argent.
Et donc, il faut parler de la cohésion à la base.
C'est pourquoi il faut s'abstenir. C'est pourquoi je parle toujours de dialogue. Sans dialogue, on ne fait pas de la politique. Sans consultation, on ne fait pas de la politique.
Reprenez, M. Dimbélé. Quelques secondes pour qu'on donne la parole à M. Guéba.
J'ai dit, donc, merci à Syriac pour compléter, qui a complété ce que j'étais en train de dire. Donc, l'objectif de ces attaques-là, c'est asphyxier l'économie centrafricaine. Et ce n'est pas gratuit s'ils sont allés attaquer Beloko. Tout le monde ici a dit que Beloko, c'est un centre stratégique.
C'est pas seulement Beloko, il y a aussi des affrontements à Garba, à Anda et d'autres localités, et à Gordil.
Vous savez que c'est par Beloko qu'arrive la plupart de tout ce que nous consommons en République centrafricaine. C'est par Beloko que l'État tire la plus grande partie du budget, du budget national. Et donc s'attaquer à Beloko, c'est chercher à asphyxier l'économie nationale. Deuxièmement...
Quelques secondes, je vous en prie.
Deuxièmement, on veut instaurer le désordre. Moi, je n'ai pas envie de sortir d'autres mots, peut-être qu'on y arrivera. On veut instaurer le désordre pour empêcher au gouvernement de travailler dans la sérénité. Parce que quand on a demandé à la communauté internationale, telle que complétée par Syriac, les gens pensaient... Puisque c'est la stratégie habituelle, empêcher au gouvernement d'avoir les moyens pour payer régulièrement les salaires, pour payer les pensions. Et vous savez que ça, c'est le baromètre de la politique en République centrafricaine. Dès que les salaires ne sont plus payés, dès que les pensions ne sont pas payées, c'est toute la population qui s'énerve et qui se retourne contre le gouvernement. Voilà l'objectif recherché. Malheureusement pour eux et heureusement pour le peuple centrafricain, jusque-là, le gouvernement continue à faire de grands efforts pour payer régulièrement les salaires à terme échus, et pour payer les pensions, pour payer les bourses. Et puis, heureusement aussi, sans le flatter, heureusement que, bon, il y a quand même de l'opposition des centrafricains, des compatriotes. on n'est pas là pour ça, c'est vrai. Mais il a dit, c'est quoi ce genre d'homme politique? Lorsque on veut s'asseoir pour trouver les solutions de son pays, pour son pays, on refuse d'y aller. Et lorsque d'autres compatriotes qui étaient avec vous vont, vous les condamnez. C'est quoi cette politique?
Monsieur Guégba, vous reprenez la parole sur les raisons évoquées par Monsieur Dimbélé et aussi par Monsieur Gonda sur les raisons de violence qui ont repris à l'intérieur du pays ces derniers temps.
Ce sont des rebelles, ce sont des bandits. Ils veulent défier l'autorité de l'État, détruire délibérément les structures de l'État. Et j'en profite effectivement pour faire une objection sur Khartoum. Lorsqu'on était à Khartoum, nous sommes arrivés à Khartoum parce que nous sommes arrivés à Khartoum, nous on pensait qu'on allait assisté en tant qu'observateur, mais on nous a mis à l'écart. Voilà. Non, on nous a mis dehors carrément. Pas dans une chambre, on était dehors et c'était le gouvernement. Et en plus, le gouvernement n'était même pas en négociation directe avec les rebelles. Donc on faisait des va-et-vient entre le gouvernement et les rebelles. Donc on ne savait même pas ce que les médiateurs disaient aux rebelles et on ne savait même pas ce que les médiateurs disaient au gouvernement. Et après, on rendait compte. Donc c'était une forme de médiation atypique. Et j'avais déjà déploré le fait qu'on ait associé des centrafricains et des étrangers ensemble. Voilà, nous continuons à vivre les conséquences. Aujourd'hui, ces étrangers-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent impunément le politique d'Ibélé, le politique Gonda. Ils ont reconnu que c'est nous qui avions importé les étrangers.
Non, je n'ai pas reconnu.
Dès lors que nous avions importé les étrangers, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous asseoir ensemble pour dire nous avions commis une faute. Renvoyons les étrangers parmi nous.
Mais il y en a qui sont encore là.
Non, mais bien sûr. Mais il y a même des étrangers dans le gouvernement. On n'a pas encore décidé de s'asseoir. Parce que lorsque j'écoute M. Dimbélé dire, en France, lorsqu'on a attaqué, quoi là,
Bataclan,
ils se sont... Mais est-ce que depuis qu'on a attaqué Beloko, est-ce que le gouvernement a fait une communication? Jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas si on a attaqué Beloko. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas si on a attaqué Besson. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas si on a attaqué Ndélé. Le gouvernement n'a fait aucun communiqué. Vous voulez que les Centrafricains se réveillent comment? Pour dire, pour déplorer. On ne va pas déplorer quelque chose qui n'existe pas pour le gouvernement.
Et la raison, c'est qu'on les a aussi invités pour expliquer
donc,
aujourd'hui
le
dans
gouvernement
le débat.
Le gouvernement brille par la politique de l'autruche. On est dans la logique où on dénie la réalité. Donc, quelque chose s'est passé, on dénie cela. On ne veut pas reconnaître. Mais vous voulez que la population se plaigne de quoi dans la mesure où ceux qui nous gouvernent ont décidé délibérément de nier. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on devait s'asseoir ensemble et dire entre Centrafricains, voilà les fautes que nous avions commises, ainsi de suite, mais nous devons tout faire pour chasser les étrangers. Vous voyez, je vais vous raconter une anecdote. Vous voyez les petits Godobé se battre généralement, non? Lorsqu'ils se battent et qu'il y a un étranger qui vient, ils le dépouillent d'abord et après ils continuent de se battre. Vous voyez? Et donc, nous, Centrafricains, on devait faire la même chose. On doit se battre entre Centrafricains. Mais on ne doit pas se battre avec les étrangers. On doit chasser les étrangers. J'ai dit que chaque fois que nous ne voulons pas régler le problème entre nous, Centrafricains, et mettre les étrangers à part, on a le quoi? Au temps du ministre d'État Gonda, il y avait DDR. Et aujourd'hui, il y a DDRR. On va rapatrier qui? S'il y a déjà dans le gouvernement un étranger, il y a déjà des étrangers. Est-ce qu'il va s'auto-rapatrier ou bien c'est à nous de le rapatrier? Comment est-ce qu'on a fait pour nommer un étranger dans le gouvernement? Et pourquoi? Alors, donc, nous devons avoir le courage de nous asseoir pour d'abord commencer à reconnaître nos fautes, chacun, de part et d'autre, et maintenant dire, il tombe à étranger.
Et c'est ce que les Centrafricains ne veulent pas.
Voilà.
Ils veulent pas s'asseoir.
Chaque camp utilise les étrangers pour venir l'aider à
celui-là
détruire
qui a amené
son pays. Étrangers,
mais celui-là utilise
voilà.
L'autre. Voilà.
Ainsi de suite.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire
nous
pour
faisons appel aux étrangers pour nous aider à détruire notre pays. Et vous savez, là, c'est un pays extraordinaire. Oui. C'est le seul pays au monde où les étrangers sont plus riches et mieux traités que les nationaux. Ils sont plus riches et ils sont mieux traités que
par
les nationaux.
Traités par qui?
Par les Centrafricains.
Par les régimes.
Les Centrafricains n'aiment pas que l'autre réussisse. Mais ils aiment que ce soit l'étranger. Et nous faisons tout pour casser le Centrafricain qui veut émerger pour faire prospérer l'étranger. Et chaque fois que un régime arrive, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est depuis le temps du régime Bozizé et le président Ouattara aujourd'hui. C'est la même chose. Nous sommes un régime exceptionnel. Nous sommes un peuple exceptionnel. Nous n'aimons pas, ne nous aimons que les étrangers. Et aujourd'hui, quand vous parlez de guerre de violence, qui est en train de faire d'utiliser ces étrangers? Mais ce sont les Centrafricains. Ces étrangers sont en train de détruire notre pays. Sous couvert de qui? Sous couvert des Centrafricains. Alors il faudrait quand même qu'on puisse venir s'asseoir avec les membres du gouvernement, dire on va quand même l'intérêt général, l'intérêt national, c'est quoi? On doit s'asseoir et maintenant laver le linge sale en famille et chasser les étrangers.
Quelques secondes sur ce point pour qu'on entende une autre question.
Exceptionnellement, Armando, pour ce qui est de l'importation des étrangers, ça c'est vrai, hein? Ça c'est vrai, on ne peut pas
nier.
La PRD, c'était le général Doumerou, de l'autre côté c'est les
les Banyamulenge qui devaient aider, etc. Jusqu'aujourd'hui, maintenant c'est les alliés russes et autres, etc. Donc chacun amène son mercenaire pour se protéger. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? Les Centrafricains ne veulent pas s'asseoir pour parler de ça.
Il y a plus de
ça.
Confiance entre les Centrafricains. Et est-ce que c'est ça aussi qui va jusqu'au sein de l'armée?
Il y a plus de confiance. Au forum de Bangui, on avait retenu, je parle sous votre contrôle, 7 groupes armés, non? 7 groupes armés qui ont signé définitivement abandonner les armes et devenir des organisations, des structures politiques. Le président Touadéra est venu prendre le pouvoir. Après Samba Panza, avec le forum, les groupes armés se sont multipliés. Ils sont devenus 14. En 2 mois, ils sont devenus 14. Et maintenant, le président Touadéra était obligé de traiter avec 14 gars qui écument le territoire. Donc aujourd'hui, notre problème, c'est celui-là. On doit s'asseoir. On ne peut pas continuer à avoir un Daras qui fait venir les gens par vers au bout des étrangers, des ceux-ci systématiquement, qui pillent et qui font de la désolation sur les populations. Pour une fois, on était parti à Rome, opposition et régime, majorité. On a discuté et on a retenu une résolution pour venir demander, faire s'asseoir dans le cadre du dialogue républicain pour faire partir tous les étrangers et demander à nos frères qui ont pris les armes de rentrer dans la République et discuter afin que nous donnons une chance à notre pays. Dès qu'on est arrivé ici, les égaux de chacun ont dominé la conscience quintessentielle de patriote et on est reparti à zéro. Chacun a refusé de venir discuter et jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi moi je pense qu'il y a une faille, il y a une défaillance du gouvernement. Un, sur le plan de la communication, pour mobiliser la population, parce que la population est le premier complice. On ne peut pas ne pas communiquer sur ce qui se passe pour que le peuple sache. Quand on le fait, quand on ne le fait pas, c'est une démission. Ce n'est pas normal. Il faut communiquer, expliquer à la population, prendre la population en témoin et mobiliser la population. Deuxièmement, il faut toucher les réalités. Les réalités, c'est quoi? Nous avons des difficultés. On ne peut pas avoir les mêmes armements que les autres. Nous utilisons les discussions comme promis par le président. J'ai suivi son discours. Il a promis lancer le chantier de la réconciliation, discuter et puis continuer à faire les réformes. Mais ça, il faut que le gouvernement accompagne le président, que le gouvernement soit efficace. Soit efficace, il faut accepter de venir expliquer au peuple. Je loue le courage du jeune Piri, le ministre de l'énergie. Quel que soit ce qu'on lui a jeté, bon, il est venu, qu'on le malmène ou qu'on le traîne, alors il est venu ici chez vous, il a fait un communiqué, il a parlé. Et puis après tout, il est reparti dans son bureau de ministre, le jeune Piri. Mais il faut le faire, quand vous ne le faites pas, vous ne défendez rien. Vous ne défendez ni le pays, ni la population, ni le gouvernement dans lequel vous êtes.
Oui, quelques secondes.
Donc moi, c'est ça je pense.
Je voulais effectivement rebondir sur deux aspects. Vous savez, il faut associer la population. Mais lorsque déjà certains de nos forces de défense et de sécurité se comportent comme des rebelles, ils violent les droits des populations, la population ne va pas leur donner des informations. Non, la population va les regarder. Vous voyez, la population est entre le marteau et l'enclume. La population fuit les rebelles parce qu'elle espérait, elle croyait que les forces de défense et de sécurité sont venus les protéger, mais vous allez entendre des témoignages selon lesquels certains éléments, puisqu'on ne paye pas les PGA, ça c'est encore un autre problème, on ne paye pas les PGA, mais les militaires qui sont sur le terrain, ils doivent vivre. Ils sont obligés de dépouiller certaines populations de leurs biens pour se nourrir. Et donc, aujourd'hui, quand ces gens-là, quand les rebelles viennent, mais vous avez vu ce qui s'est passé à Béloko, la population n'a même pas...
Certainement,
informé.
La population devait être au courant il y a longtemps.
Mais non, mais la population, les voit.
Ils ont traversé des villages pour arriver.
Mais bien sûr, la population les voit. Vous avez vu ce qui s'était passé en janvier 2021. La population avait les informations. On avait informé les autorités. Aucune autorité n'avait pris ces informations au sérieux jusqu'au jour où on a attaqué Bangui. Et c'est la même chose. Vous voyez. Donc aujourd'hui, le gouvernement néglige la population. C'est pour cette raison que vous avez vu, aucun membre du gouvernement n'est là. Et deuxièmement, depuis qu'on a attaqué les Bessons, les Bélocos et consorts, est-ce que vous avez vu un communiqué du gouvernement? Vous n'avez vu aucun communiqué pour nous expliquer ce qui s'est passé, quelles sont les dispositions que le gouvernement a prises, quelle est l'étendue des pertes. On n'a pas évalué parce qu'à Béloko, il y a les biens de l'État qui ont été détruits et les biens des particuliers. On peut déjà les estimer. On n'a aucune idée. Donc, on a dit qu'il y a des Centrafricains qui ont appelé pour ne pas financer et consorts. J'ai écouté le représentant de la Banque mondiale qui parlait de la mauvaise gestion et ou bien des recettes fiscalos qui ne sont pas...
En un mot, de la mal gouvernance.
Voilà, de la mauvaise gouvernance. Il y a des recettes qu'on ne budgétise pas. Et donc, la Banque mondiale ne peut pas donner de l'argent à un pays qui ne respecte pas l'orthodoxie. Donc, il appartient encore au gouvernement. Mais en plus de ce qu'il y a de ces demandes-là, mais s'il y avait une communication claire du gouvernement dans ce sens, le gouvernement va dire, mais l'opposition a appelé à ne pas financer, mais nous, gouvernement, voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous avons réalisé, ainsi de suite, pour convaincre. Ça, c'est un débat.
C'est un débat. On va donner la parole à vous, M. Dembélé. Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays, l'on se demande que fait concrètement le service de renseignement. Vous avez vu déjà l'attaque de Beloko. Nous donnons toujours l'exemple de Beloko et bien d'autres localités.
Je ne suis pas militaire. Je ne suis pas de ce domaine-là. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne suis ni militaire, ni du domaine de renseignement. Je ne peux pas répondre à une telle question. Par contre, je profiterai de mon temps de parole pour dire que je ne veux pas encourager les membres du gouvernement à ne pas communiquer. Non, j'ai dit il y a des domaines tels que le domaine de l'armée, le domaine militaire. Le gouvernement peut préférer ne rien dire pour protéger par exemple les militaires ou pour garder ce qu'on appelle le secret militaire. Par contre, sur d'autres points tels que développés par Maître Biegba ici, notamment en ce qui concerne l'appel à ne pas donner de l'argent à l'État centrafricain, je pense que s'il y avait une mauvaise gestion, si la Banque mondiale reprochait à la RCA, au gouvernement centrafricain, une mauvaise gestion, je ne pense pas que la Banque mondiale et le FMI soient en mesure de signer des accords avec le gouvernement centrafricain. Non, non. Les raisons se trouvent ailleurs. Et nous avons tous vécu dans ce pays, lorsque quelqu'un est allé à l'ONU demander qu'on prive la RCA des armes essentielles au FACA. Est-ce que c'est parce que le gouvernement gérait mal les armes? Non. C'est une question de mauvaise foi. Je suis d'accord que le gouvernement, que le chef de l'État, que le gouvernement réunisse les Centrafricains autour de table pour discuter des problèmes de leur pays. Monsieur Gundala dit, il y a eu le dialogue républicain. Il y a eu le dialogue républicain, mais personne n'a accepté. Au dernier moment, ceux qui ont voulu ce dialogue-là, ceux qui ont organisé en amont ce dialogue-là, au dernier moment, ils ont refusé. Dieu merci, il y a certains compatriotes qui ont dit que c'est pour le pays, c'est un débat pour sauver le pays et qui sont venus. Mais ils ont été traités de tout, mais ils sont venus, on a travaillé et il y a eu des résolutions. Aujourd'hui, on a mis en place un comité chargé de suivre ces résolutions-là, chargé de favoriser l'application de ces résolutions du dialogue républicain. Nous voulons le dialogue, mais il faudrait que ce dialogue-là soit sincère. Il faudrait que ce dialogue-là soit accepté par tous. Et il faudrait que si on l'accepte, il faudrait que ce soit une acceptation sincère. On ne peut pas rester en marge. On ne peut pas continuer à placer la RCA en marge de la marche du monde. Mais c'est ce que nous faisons, nous, Centrafricains. Nous accusons aujourd'hui les étrangers, tout et tout. Mais je suis d'accord aussi. Quand vous dites que nous n'avons pas de moyens, tout et tout, c'est vrai. Vous avez la pression. Il y a la pression. Faites ci, faites ça, faites cela, faites ceci. Alors, lorsque le gouvernement prend une mesure pour essayer d'échapper à cette pression-là, et aucun Centrafricain ne soutient, il y en a quelques-uns qui soutiennent, qui disent, monsieur le président, monsieur du gouvernement, voilà ce que vous avez fait, c'est juste. Mais la politique dans notre pays, c'est tout simplement une politique de penser qu'à soi-même. On ne pense qu'à soi-même. Il y en a qui ne sont ni ministres, ni directeur général, ni quelque part, mais qui participent à des actions en faveur du pays. Voilà ce que je veux dire.
Au regard de ce qui se passe, ou bien de l'attaque de Beloko, ça c'est à titre d'illustration, est-ce qu'on peut déjà poser la question de savoir que fait concrètement le service de renseignement? Puisque vous avez vu, vous avez évoqué déjà à l'entame de cette émission la question d'anticipation de certaines situations.
Non, c'est-à-dire, je pense, moi je ne suis pas spécialiste aussi de la question, mais j'ai eu à vivre ça avec les rébellions. Il y en avait 7 contre le président Bozizé. Et donc, comment on est allé pas à pas jusqu'à circonscrire et désarmer la PRD? Il ne restait que l'UFDA qui s'est transformé en... en serpent à quatre têtes, qui est devenu la Séléka et qui a fait partie le président Bozizé. Je pense que le service de renseignement seul aussi ne peut pas faire l'affaire. C'est toute une armée. Et donc, c'est tout un ministère. C'est la défense. C'est toute une politique de la sécurité. Et le service de renseignement fait partie. Donc, on ne peut pas dire
tous
que...
les ingrédients.
Parce que imaginez-vous que le service de renseignement peut dire, écoutez, il y a des rebelles qui sont en train de venir et qu'il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'armée sur place. Parce qu'il n'y a pas une base à Béloko. Je pense que dans le maillage...
Il y a une base militaire dans la Mambire à Boire.
Oui, à Boire, c'est encore non loin. Loin, c'est encore loin. Mais non, vous loin, savez, hein. Notre argent, notre sous, notre poumon économique, c'est là-bas, dans tous les pays du monde, dans le cadre du maillage militaire. Ils seront obligés de mettre une base qui protège, ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Donc, je crois que ça, c'est des choses... Moi, c'est une proposition. Il faut que dans le cadre du maillage militaire... Il faut penser à ce que cette entrée-là, qui est très importante, qui a été menacée à l'époque contre la CIP plusieurs fois, soit protégée par une base. Et la base de là soit protégée par une base et ça aidera beaucoup. Deuxièmement, je crois qu'il y a des failles dans la politique sécuritaire de notre pays. Il faut que la gouvernance sécuritaire puisse être revue de manière sérieuse en tenant compte de nos moyens. On n'en a pas assez. Et en accompagnant ça par des discussions. Président Dimbélé, on ne discute pas avec les rebelles comme on discute avec des hommes politiques. Moi, j'ai mené au moins 8 ou 7 discussions avec des accords de paix. Certains n'ont pas marché. Certains ont marché. Mais quand on discute avec eux, comme j'ai dit, vous allez utiliser le bâton et la carotte. C'est-à-dire les chefs militaires, c'est un débat. Vous déposez les armes, vous rentrez dans la République, vous ne pouvez pas continuer à tuer. Et vous, le président peut avoir le parrainage, comme il a voulu avoir, de l'Angola. Et à partir de ce moment-là, ils ont la responsabilité de regrouper, de cantonner, de désarmer et d'aider à la réinsertion. À partir de la réinsertion, on retrouve ces daras-là qui sont devenus nos présidents maintenant. Là, on leur dit, allez être président au Niger, repartez. Et on trouvera tous les mécanismes internationaux pour les faire rapatrier, comme on l'a fait pour Babalade. J'ai été celui-là qui a accompagné pour que Babalade soit livré, renvoyé, livré au président Déby, et puis être emprisonné à Moussoro, jusqu'à ce qu'il sorte. Mais c'est lui qui a fait venir Babalade, qui était son chef d'état-major adjoint, et qui était basé là à Lambi, de discuter avec eux. Mais quand Babalade est parti, l'autre a disparu dans la nature, il a retrouvé les autres, et les autres les ont repris. Il y avait les gens à Koussoubak, la bataille de Koussoubak et de Ngarba. Ils les ont utilisés avec les Djendjawites contre à l'époque du président Massi. Et puis, ils sont restés. Ils se sont ancrés. Ils ont même eu des grades et ils ont eu un décret en leur nom. C'est nous qui avons permis ça. Or, après le forum de Bangui, on devait trancher, s'asseoir. On dit, le forum avait décidé de leur départ. On ne devait pas aujourd'hui avoir des éléments. C'est-à-dire, aujourd'hui, le président de la République gère le pays avec des ingrédients non modernes, des ingrédients anti-républicains, un étranger, un peu centrafricain, un peu militaire, un peu non militaire. Donc, c'est-à-dire, c'est du méli-mélo. Il faut qu'on ait le courage d'arrêter ça.
Maître Gbegba, vous avez déjà évoqué cette question du service de renseignement tout à l'heure.
Je l'ai dit, je me répète, lorsqu'il y a une attaque sur un site stratégique économique comme Béloko, vous allez constater que les services de renseignement n'ont pas marché. Et le ministre Gonda vient de vous dire que même si le service de renseignement fait son travail, il faut maintenant qu'il y ait des éléments. Et c'est ce que nous appelons la réponse, parce qu'il n'y a pas de risque zéro. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a des choses qui se passent, mais il n'y a pas de réponse appropriée. C'est pour cette raison que vous voyez les rebelles continuer à se promener gaillardement sur notre territoire, tuer la population. Mais s'il y avait une réponse appropriée, ces rebelles-là allaient réfléchir par deux fois avant de mener des attaques. Ils savent qu'ils sont venus attaquer Béloko. Qu'est-ce qui s'est passé? On a détruit des fûts, on a détruit des véhicules et consorts. Après, on a attaqué les Besson, on a attaqué Ndélé et consorts. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Chacun doit faire la politique de ses moyens. On doit faire la politique de ses moyens. Est-ce que nous avions les moyens de... Bon, maintenant, nous allons faire la négociation. D'abord, la première négociation, c'est entre Centrafricains. Il faudrait que tous les Centrafricains soient unis autour de l'intérêt général. Ce qu'on n'a jamais connu. Les Centrafricains, d'ailleurs, pour le mot intérêt général, les Centrafricains ne connaissent même pas encore ça. Chaque politique mène sa politique. Et chaque parti qui vient au pouvoir, c'est la politique d'exclusion. Tous ceux qui sont des opposants sont des ennemis, sont pas des. Et c'est pour cette raison que, vous voyez, dans la logique des politiques centrafricains, c'est la détestation. On a travaillé la politique dans la logique de la détestation. Alors qu'on devait travailler la politique dans le cadre de la contradiction et des débats permanents entre centrafricains.
Le temps nous fait défaut. Voilà. Nous avons une autre question pour tout le monde. Hein. Chacun aura une minute pour répondre. Nous savons que le gouvernement Moulouwa vit de plus en plus une tension financière avec ses multiples attaques perpétrées tantôt contre la population, les populations civiles, tantôt contre les forces de défense et de sécurité, voire contre les symboles de l'État. Ces groupes armés ne sont-ils pas dans la logique, M. Dimbélé, de mettre le gouvernement dos au mur?
L'objectif recherché était de faire asphyxier l'économie nationale, de ne pas permettre au gouvernement d'avoir les moyens pour faire face à cette dépense régalienne. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure ici. Mais je voudrais...
Répondre rapidement.
Oui, oui, je voudrais très rapidement dire... Je suis d'accord avec lui que...
Avec qui, M. Gbagba?
Avec M. Gbagba. Que le terme d'intérêt général devait gouverner toutes nos pensées politiques. Que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, on politique centrafricain. Mais quand vous dites que le gouvernement entretient une politique de détestation, d'exclusion, tout et tout, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que, au temps de M. Bozizé, par exemple, il a travaillé avec tout le monde. Au dernier moment, on ne peut pas être ministre éternellement. Or, il se trouve que dans ce pays-là, lorsqu'on a été ministre et qu'on n'est plus ministre, on devient automatiquement ennemi. Et on se radicalise vis-à-vis de l'État. Le régime actuel. Mais quels sont ceux qui ont eu plus de ministres dans le gouvernement? Le MLPC avait beaucoup de ministres dans le gouvernement. Le président Ziguélé lui-même.
En vertu de leur alliance.
Mais le président Ziguélé lui-même était quoi? Était président d'une commission influente de l'Assemblée nationale. L'URCA avait deux ministres dans le gouvernement. Mbodigumba avait un ou deux ministres dans le gouvernement. Mais ce sont ces compatriotes-là qui ont choisi de se mettre à l'exclusion, de s'exclure du système, de se mettre dans l'opposition.
Mais faire de l'opposition, radicale. Ce n'est pas aussi une exclusion.
Oui. Non.
Peut-être ils ont choisi de faire de l'opposion.
Je n'avais pas de ministre dans le gouvernement.
Monsieur Gonda
n'a jamais eu de ministre dans le gouvernement.
Absolument.
Mais Monsieur Gonda ne
mais
s'est
il est
jamais,
opposant.
Oui, mais il ne s'est jamais radicalisé vis-à-vis du régime. Je pense que...
Quelques secondes.
Oui. Je finis là. Je pense que nous sommes tous centrafricains et nous devons travailler. Je suis d'accord avec votre terme, intérêt général. Nous devons mettre devant nous et en tête.
Vous l'avez déjà dit, le temps fait défaut. Oui, quelques secondes, M. Gonda, sur ce point.
Bon, moi, je disais tout simplement de manière vraiment calme que dans une situation d'insécurité généralisée comme on est en train de vivre, le gouvernement sera toujours en grande difficulté. Donc on n'a pas besoin de dire que c'est eux qui ont besoin de mettre le gouvernement dos au mur. Avec ce qui se passe, Armando, ne serait-ce que le déploiement à tout moment, etc., les machins...
Certainement, ça va coûter au gouvernement.
Le gouvernement, ça doit coûter au gouvernement. C'est pourquoi le gouvernement doit se lever de manière vigoureuse et se battre. C'est-à-dire en communiquant, en défendant, en utilisant les moyens, en utilisant les stratégies, en faisant des discussions parallèles pour essayer de... Parce que moi, je pense, pour finir,
oui,
je pense pour finir, qu'on ne va pas... personne ne va gagner la guerre par la guerre. C'est-à-dire aujourd'hui, non, les rebelles vont gagner la guerre, ou bien non, le régime va gagner la guerre, va les repousser, parce qu'il y a les Russes, parce qu'il y a la MINUSCA, parce qu'il y a le Rwanda, c'est un faux problème. Il faut trouver
toujours
les stratégies appropriées, mais non, dialoguer, amener les gens à arrêter. C'est pas seulement dialoguer, bon, vous continuez.
On va écouter Maître
Gbagba
sur arrêter, cette question.
À cantonner les gens, c'est-à-dire...
Quelques secondes, Maître Gbagba.
Voilà ce que je pense.
Je vous remercie, bon... Quand je vois, j'ai entendu le président Dimbélé citer MLPC, URCA, Patrie, le contexte a évolué parce qu'il savait qu'au moment où le MLPC avait beaucoup de ministres dans le gouvernement, ils étaient alliés du gouvernement, hein, ainsi que Patrice Sauf Lurka qui était
de l'opposition.
Mais est-ce qu'on l'avait aussi. Voilà, est-ce qu'on a dit qu'il y avait un gouvernement du non national? Ça, je ne sais pas. Mais il faut encore qu'on puisse cette fois-ci convoquer, disons,
un autre débat
sur cela avec sur cela, les responsables de ces partis qui pour qu'ils l'expliquent, parce que moi je n'aime pas parler à l'absence des gens. Et moi, je préfère puisque nous parlons à l'absence du gouvernement et à l'aise parce que le gouvernement a refusé de venir. C'est pour cette raison que nous en parlons. Et comme l'a dit le ministre Gonda, il faut chercher des moyens pour qu'il y ait un compromis sans compromission. Mais malheureusement, l'accord de Khartoum a été une compromission. C'est pour cette raison que ça n'a pas marché.
C'est la fin du débat politique d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir été de nôtre tout au long de cette émission. Nous avons analysé, décrypté la résurgence des violences armées ces derniers jours en République centrafricaine. Merci à nos invités d'avoir pris part à ce rendez-vous. Mathurin Dimbele Nakwe, conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale, coordinateur du mouvement Centrafrique Debout, qui soutient le gouvernement et ancien député. Siria Gonda, président du Parti national pour un Centrafrique nouveau, ancien ministre d'État et opposant au régime du président Touadéra, et maître Bruno Hyacinthe Gbegba, avocat au barreau de Centrafrique et membre du groupe de travail de la société civile JTSC. Merci à vous messieurs, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon week-end et surtout prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois. À la semaine prochaine, même heure et même fréquence. Au revoir.